Radio Okapi.
Le journal Billy Ivan Lutumba. Denis Kambay, nouveau gouverneur du Kasaï central, et Louis Mbonga Mogalu prend de son côté les rênes de la province de la Mongala. Ce sont les résultats à l'issue des élections au niveau des assemblées provinciales à Kananga et Lissala. Satisfaction de l'entreprise minière Kamoto Cooper Company. Après deux ans sans produire le cuivre et cobalt, la première cathode de cuivre est sortie des machines depuis le 11 décembre. Dans la deuxième partie de ce journal, André Kitenge va nous entretenir sur la tentative du groupe de travail sur la décentralisation et les élections de venir à bout des conflits fonciers dans la province de la Tchopo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Vous le savez bien, c'est aujourd'hui que devaient intervenir les élections au niveau de l'Assemblée provinciale à Kananga et à Lissala. Alors, Denis Kambay vient d'être élu gouverneur du Kasaï central. Les députés provinciaux ont voté ce matin pour désigner le successeur d'Alex Kandé déchu en octobre dernier après l'adoption d'une motion de censure. Plus de détails avec Joël Bofengo.
Par 12 voix contre 10, l'ancien ministre des Sports, Denis Kambay, devance.
Oui, Joël, allez-y, nous vous écoutons.
Par 12 voix contre 10, l'ancien ministre des Sports, Denis Kambay, devant son challenger, Martin Kabuya. 23 députés sur 24 ont pris part au scrutin. Un bulletin a été déclaré nul. Si ces résultats sont confirmés par la Cour d'appel de Kananga le 6 janvier prochain, Denis Kambay va succéder à Alex Kondé. Le nouveau gouverneur va hériter d'une province qui fait face à d'énormes difficultés. L'insurrection de la milice Kamouinansapu, qui a embrasé toute la région du Kasaï, est partie du Kasaï central. Un conflit de pouvoir coutumier qui s'est transformé en l'une des crises les plus graves que le pays a connues au cours de ces dernières années. Plus de 3000 personnes ont trouvé la mort dans la région, selon l'Église catholique. Près d'un million et demi de personnes ont été contraintes de fuir leurs habitations. Après plus d'un an de conflit, la région est dévastée. Le Kasaï central, comme les provinces voisines, tente de panser ses plaies. L'économie de la province est littéralement asphyxiée. La frontière angolaise, par où entraient de nombreux produits de consommation, a été fermée à cause des violences. Éloignés de leurs terres, les paysans n'ont pas cultivé. Les humanitaires redoutent une grave crise alimentaire. Le Kasaï central connaît aussi des difficultés d'accès à l'eau, à l'électricité. L'infrastructure routière de la province est très délabrée. C'est à tous ces problèmes que le nouveau gouverneur élu va devoir faire face. Depuis Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
Merci bien, Joël. Cap vers la province de la Mongala, de l'Équateur, plutôt c'est la province de la Mongala. Louis Mbonga Mogalu a été élu gouverneur province de la Mongala avec 22 voix sur 23, avec comme colistier Aimé Bokungu. Nous avons en ligne notre confrère depuis Mbandaka.
Autour de l'hémicycle, il s'observe depuis le matin une forte mobilisation et présence des badauds, chacun voulant avoir la primeur des résultats de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de l'Équateur. La police est également déployée à l'entrée et aux abords de la salle de plénière. Tout le monde est systématiquement fouillé avant l'accès. Dans la salle, le dispositif est déjà mis en place pour l'organisation du scrutin. Ce, après la séance plénière et la lecture du procès verbal de constat des quorums. Ainsi, le 22 députés qui siègent actuellement sont tous présents dans la salle. Tout le monde reste serein pendant que la CENI est en train de transformer l'hémicycle en bureau de vote et de filtrer l'accès dans la salle en fonction des accréditations. À la cité, la population dit attendre du nouveau gouverneur la réhabilitation des infrastructures de base. Autres attentes, la bonne gouvernance des finances, le respect des lois et la réunification de tous les fils de l'Équateur. Depuis l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Paul Chamanengela, Radio Okapi.
Et oui, bien voilà, là, il s'agissait des résultats de l'Équateur et nous allons vous faire le point des autres élections, par exemple, dans la province de la Mongala et nous y reviendrons. Rendons-nous présentement à Kalemi où la présence du président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Benoît Mbayo, à la conférence des gouverneurs tenue dernièrement à Goma provoque des remous à Kalemi. Pour les députés initiateurs de la motion de déchéance du président au sein de l'hémicycle provincial, Benoît Mbayo n'avait pas qualité de représenter le Tanganyika aux travaux. Par contre, le président indexé se considère toujours comme l'autorité par excellence de l'organe délibérant au Tanganyika. François-Xavier Mibé.
C'est au deuxième jour de clôture des travaux de la conférence des gouverneurs de Goma que les députés se sont exprimés à ce sujet. Le président Benoît Mbayo, considéré comme déchu à leur égard, n'a plus qualité de représenter valablement l'organe délibérant de la province du Tanganyika aux instances nationales. L'honorable député Prudent Kikomecha Kabemba.
C'est un infiltré. Benoît n'est pas notre président. Il a été déjà déchu depuis le mois de juin en 2017 pour reprendre ce qu'il avait fait. L'honorable Benoît ne respecte pas le texte. Il refuse le contrôle de l'exécutif. Aujourd'hui, la décentralisation ne fonctionne pas au niveau de Tanganyika. C'est pour cela que nous demandons l'implication personnelle du chef de l'État, lui qui est le garant de la Constitution, pour qu'il lève la mesure suspendant les plénières au niveau de Tanganyika. Nous avons besoin de travailler parce que notre province a beaucoup de problèmes.
Le président de l'organe délibérant en province du Tanganyika ne l'entend pas de cette oreille. Benoît Mbayo persiste et signe.
Nous sommes dans un pays de droit. Moi, j'ai été invité par le gouvernement national. Et lui qui parle de l'infiltration ne dépend que de sa hiérarchie qui le reconnaît.
Rappelons que les plénières de l'Assemblée provinciale du Tanganyika ont été suspendues le 2 octobre par le vice-premier ministre national de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Chadari, suite aux incidents survenus à l'ouverture de la session budgétaire de septembre. Kalemi, François Diabemibé, Radio Kapi.
Et nous en venons à cette conférence tenue par la majorité présidentielle, c'était hier. Pour la majorité présidentielle, l'année 2007 a été une année éminente et incontestablement politique au regard des faits qui l'ont marqué. La chose la plus importante que l'AMP retient de 2017, c'est l'engagement de son autorité morale. Le président Joseph Kabila, accompagné par sa famille politique, à la mise en œuvre intégrale de l'accord du 31 décembre 2016. Le porte-parole de l'AMP l'a dit hier mercredi au cours d'une conférence de presse axée sur le bilan de l'année qui s'achève et les perspectives. Selon André Alain Atundu Liongo, l'événement phare qui a couronné l'engagement du président de la République fut incontestablement la publication du calendrier électoral. Pour l'année 2018 qui s'annonce, l'AMP invite tout le monde à s'engager de bonne foi dans la réussite du processus électoral. On écoute un extrait de son adresse au micro de Nounungoy.
Pour la majorité présidentielle, conformément à l'engagement pris par son autorité morale, 2018 doit consacrer la fin du processus électoral par les élections, évidemment, conformément à toutes les dispositions pertinentes de la Constitution et dans le respect de la volonté du peuple. Chacun doit se préparer aux élections sans faufouillant pour l'intérêt de notre peuple, pour le bénéfice de notre économie et de nos populations. La majorité présidentielle renouvelle à cette occasion son engagement à accompagner son autorité morale dans la réalisation de l'aspiration profonde de nos populations aux élections apaisées et non productrices de chaos, à la paix et à l'amélioration de sa condition sociale.
Parlons aussi de la dernière conférence de presse de la MONUSCO. 2017 a été une année difficile et complexe pour la MONUSCO et la RDC. Déclaration de la porte-parole de la mission onusienne. Florence Marchal s'est ainsi exprimée au cours hier lors de la dernière conférence de presse hebdomadaire de l'année. D'après elle, la MONUSCO et tout le système onusien en RDC feront tout en vue de la stabilité et du développement de ce pays. Ces propos ont été recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Nous avons vu dans ce pays une aggravation des crises, à la fois politiques, économiques, sécuritaires, humanitaires. Nous avons perdu des casques bleus, nous avons des collègues experts des Nations Unies qui ont été assassinés. Des milliers de Congolais ont dû être déplacés en raison des conflits. D'autres Congolais souffrent de malnutrition sévère. Mais il est vrai aussi que les Nations Unies, la MONUSCO et les agences fonds et programmes des Nations Unies sont présents aux côtés des autorités congolaises et des populations congolaises afin d'apporter, dans la limite de leurs ressources disponibles, tout le soutien et le réconfort possible qu'on puisse apporter aux populations congolaises.
Je vous le disais dans le sommaire de cette édition, plus de 2 ans après la suspension de la production du cuivre et du cobalt, l'entreprise minière Kamoto Copper Company, KCC, vient de relancer sa production en ce mois de décembre 2017. La première cathode de cuivre a été produite le 11 décembre passé, indique un communiqué rendu public par l'entreprise la semaine dernière. À noter que Katanga Mining, actionnaire majoritaire dans KCC, annonce que le budget pour la construction d'une usine modernisée de traitement de cobalt est approuvé. Denis Mayo.
Jusque-là, seule une partie de la nouvelle usine est mise en service. Elle tournera à plein régime vers la fin du premier trimestre 2018. Selon le communiqué publié par l'entreprise, KCC prévoit de produire 150 000 tonnes de cuivre et 11 000 tonnes de cobalt d'ici la fin de l'année 2018. La production du cuivre pourrait atteindre les 300 000 tonnes en 2019 et le cobalt 34 000 tonnes. Pour rappel, c'est en septembre 2015 que le groupe suisse Glencore, géant des matières premières, avait décidé de la suspension de la production minière de ses mines de Kamoto en RDC et Mopani en Zambie en vue de la construction de la nouvelle usine. En RDC, la filiale du groupe suisse touchée par cette mesure était Katanga Mining, qui détient 75% des parts dans KCC, basée à Kolwezi. Près de 20% du personnel avait perdu leur emploi. Lubumbashi, Denis Mayo, Radio Okapi.
Et puis, l'observateur de la dépense publique accuse certaines institutions d'avoir consommé plus des crédits que prévu entre 2012 et 2016. Dans un rapport dressé sur l'exécution des finances publiques, l'ODEP cite notamment la présidence de la République, la primature et le Sénat d'avoir dépensé plus d'argent que ce qui leur a été alloué. Pascal Masirka nous en dit plus.
L'ODEP dit avoir constaté que pendant cette période, quelques institutions ont consommé des crédits en dépassement alors qu'il y a une sous-consommation des crédits dans les secteurs clés de la vie nationale. Il s'agit notamment de la présidence de la République, 144,8%, la primature, 244,4% et le Sénat, 115,9%. Pour l'ODEP, l'absence de justice sociale, le manque de transparence et l'absence de discipline budgétaire, le manque d'équité dans la gestion des finances publiques sont les facteurs ayant caractérisé le quinquennat. À cela s'ajoutent les déficits de suivi et de contrôle par le Parlement, l'Inspection générale des finances et la Cour des comptes dans l'exécution du budget. Conséquence, l'atteinte des résultats dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement reste faible. Dans ce rapport, l'ODEP révèle des sous-consommations des dépenses des services sociaux des bases comme le genre, famille et enfants, le développement rural, l'agriculture et la CENI. L'Observatoire conclut que l'exécution des lois des finances en RDC n'a pas été conforme à la loi y afférente. Il ajoute l'inadéquation entre la vision et la programmation, la budgétisation, l'exécution, les suivis et l'évaluation.
Cap vers la province de Litouri. Le tronçon routier Ngote-Aru est bloqué depuis le week-end dernier. D'après la société civile d'Aru, des cantonniers utilisés pour sa réhabilitation par l'entreprise OEN ont démoli un caniveau qu'ils auraient entretenu au motif qu'ils ne sont pas payés par cette entreprise. Conséquence, impossible pour des nouveaux véhicules de passer. Sadiq Aboubakar explique.
Ces cantonniers réclament 8 309 dollars américains à l'entreprise ON qui les a employés. Selon Innocent Magoudé, président de la société civile d'Aru, ces cantonniers agissent ainsi par manque de réponse à leurs revendications. Pour faciliter le passage des véhicules, il y a plus d'une semaine, ils ont aménagé un passage de fortune après avoir récolté l'argent auprès des camionneurs. Cependant, la situation est revenue au point de départ depuis samedi. Ils ont une fois de plus creusé un trou béant sur la route au niveau de Yuku. Ce mercredi matin, plus de 10 gros véhicules sont bloqués de part et d'autre. Seuls, les voitures et les camionnettes peuvent contourner le blocage en passant par le tronçon qui mène vers Ouata avant d'atteindre Aru. Pour Lomo Amukaika Julbert, ministre provincial des ITPR, ces travaux avaient été financés par Foner. Ces derniers avaient déjà payé ON pour la partie déjà réhabilitée, mais son responsable reste injoignable afin de justifier ses non-paiements des cantonniers. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Avant de terminer cette page nationale, dans le Haut-Lomami, les commerçants membres de la Fédération des entreprises du Congo saluent l'arrivée depuis lundi à Kitenge des plus d'une vingtaine de wagons destinés à évacuer les marchandises qui traînaient dans les différentes gares. Floribert Banzewa-Banze, président de la FEC Kitenge, parle des plus de 160 tonnes de marchandises constituées de maïs, arachides, haricots et soja bloquées à Kalemi, Kamunga et Kitenge, Kalemi, Kamunga et Kitenge qui seront acheminés vers les centres de consommation. On écoute au téléphone Colin Djuma Moussoumbo.
Nos impressions quand même que nous sommes satisfaits. Nous attendons quand même qu'un deuxième lot pour que tout le monde aille fêter chez lui avec sa famille, avec ses enfants. En tout cas, c'est ça notre souci. Nous attendons le deuxième lot avant la fin de l'année. En tout cas, nous félicitons quand même que les autorités de la SNCC, ils ont écouté nos cris, sont arrivés jusqu'à partir de nos autorités à Kitenge, en tout cas, c'était le wagon. Mais au total, le départ, c'était 23 wagons. Et à Kamungu aura quand même un petit quota. Tenge aussi aura quand même un autre quota. Nous lançons à nos membres de patienter parce que comme directement, les autorités nous ont écoutés directement, ils nous ont fait quand même confiance. Nous aussi, nous leur faisons aussi confiance.
Actualité Afrique Monde.
Et nous commençons par le Cameroun. Ce jeudi 21 décembre 2017, c'est une journée importante pour notre confrère Ahmed Abba. En effet, la cour d'appel militaire de Yaoundé doit rendre sa décision le concernant. Cela fait plus de 2 ans que notre correspondant en langue à Oussa au Cameroun est emprisonné à la première instance. Il a été condamné à 10 ans de prison ferme pour non-dénonciation et blanchiment du produit d'un acte terroriste. Ses avocats espèrent qu'il sera cette fois innocenté. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a refermé la 54e conférence de l'ANC lors d'un discours résolument rassembleur. Le nouveau président du parti au pouvoir a martelé qu'il voulait réunifier le mouvement et amener toutes les factions à travailler ensemble. Il a aussi donné des gages d'allégeance au parti tout en saluant longuement l'héritage de Jacob Zuma, le président sortant. Élection partielle en Espagne. Depuis le début de matinée, les Catalans se rendent dans les bureaux de vote pour participer à ce scrutin convoqué par Madrid, qui a repris le contrôle de la région après la déclaration de l'indépendance proclamée par les indépendantistes à la fin du mois d'octobre. Des élections décisives alors que l'Espagne vit sa pire crise politique depuis 40 ans. En tête des sondages, on retrouve 2 partis, la gauche républicaine de Catalogne, menée par l'indépendantiste Marta Rovira, et le parti libéral Cuidadamonos de l'unioniste Inés Arrimadas.